1, 2, 3, 4. Crazy Afrobeat.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour un nouveau numéro du Grand Direct. C'est les vacances de Pâques, l'occasion sans doute pour vous de retrouver un coin sympa pour écouter votre rendez-vous hebdomadaire de vie lausannoise. Et nous, on va y contribuer ce soir avec un Grand Direct. Nous allons commencer dans Vivre à Lausanne avec une sortie en forêt accompagnée de spécialistes des arbres. Un sujet que nous proposait Samuel, c'était le 12 juin dernier. Dans une vingtaine de minutes, ce sera la Rose des Vents avec toi Daniel, bonsoir.
Bonsoir Fabien.
Ce soir, tu nous emmènes à Cuba pour parler de théâtre.
Effectivement, on va aller à la rencontre du jeune troupe que l'on appelle les spécialistes. Ce ne sont pas des acteurs, mais des jeunes qui ont entre 25 et 40 ans, qui racontent l'histoire de Cuba au travers des yeux de leurs grands-parents. Mais surtout, c'est aussi un appel à revoir la révolution cubaine sous un autre angle, avec des yeux plus jeunes, et aussi porté par beaucoup de sensibilité et des rêves enfouis.
Et bien vous nous faites voyager en ce mardi 16 avril, début des vacances de Pâques, un voyage à travers Cuba à découvrir dans une vingtaine de minutes. Enfin, à 7h20, ce sera dans Cultiver Lausanne, nous allons découvrir ou redécouvrir le metteur en scène Julien Mage au micro d'Isaora. Une balade en forêt, le théâtre de Cuba et le metteur en scène Julien Mage, c'est le programme de notre grand direct de ce mardi 16 avril à écouter comme tous les mardis sur radio.django.fm et sur le DAB de La Fabrique. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Ce soir, et pour ouvrir ce grand direct, place à un sujet que nous découvrions le 12 juin dernier. Samuel nous emmenait dans l'univers de la forêt.
Oui, grâce à l'invitation de la Société Forestière Suisse qui fête cette année ses 175 ans d'existence. À cette occasion, elle a organisé une rencontre entre des forestiers suisses et des peuples premiers. Le thème de ces dialogues était l'universalité de la forêt et rassemblait des personnes venues du Brésil comme de l'océan Pacifique. C'est une rencontre qui se déroulait justement dans une forêt, la forêt de Moncor, à quelques arrêts de bus de Fribourg.
Et nous avons le plaisir ce soir d'en parler avec vous, Jean Rosset. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Vous êtes président de la Société Suisse des Forêts. Les peuples premiers, hein, comme le disait Samuel à l'instant, que vous avez conviés, vivent au cœur de la forêt. Vous rappelez que nous aussi, les Suisses, sommes un peuple de forêt. Nous n'y vivons plus, hein, mais dites-vous, nous avons des liens spéciaux avec la dite forêt. Quel genre de rapport les Suisses du 21e siècle ont, eux, avec la forêt ? Avec leur forêt peut-être.
Alors ils en ont énormément en fait. La forêt c'est quelque chose d'extraordinaire, ça couvre un tiers du territoire suisse et puis il y en a dans toutes les communes suisses. Donc je crois qu'il y a une étude qui dit qu'il y a 90% des Suisses qui ont la forêt à moins de ou à 10 minutes de chez eux en transport public. Donc je pense que la forêt elle est présente pour chaque Suisse, en tout cas possiblement présente pour chaque Suisse. Physiquement, mais probablement aussi un peu émotionnellement. Alors là, ça ouvre tout un chapitre.
Ah ben oui, effectivement.
Mais...
Alors, vous avez convié au dialogue, comme on le disait tout à l'heure, des gardiens de forêt. D'un côté, les forestiers suisses, et de l'autre, des représentants des peuples premiers. Il y avait notamment des Uniquin et des souris qui venaient d'Amazonie, des Kanaks de Nouvelle-Calédonie, des Maoris de Nouvelle-Zélande. Et vous-même avez eu l'occasion de séjourner en Amazonie. Est-ce que cette rencontre a changé votre vision de la forêt et peut-être votre travail dans la forêt ici en Suisse ?
Oui, donc j'ai eu effectivement, on a été invité avec un groupe de personnes largement de la région lausannoise par un chef de tribu amazonienne à séjourner pendant une dizaine de jours dans leur village. Et ce séjour m'a profondément touché et profondément... bouleversé effectivement, donc je vois plus la forêt, le vivant, la nature de la même manière que celle que je voyais jusqu'à maintenant, qui était en fait imprégnée de ce que j'ai appris au Poly à Zurich et disons du monde dans lequel je travaille. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'a complètement ouvert les idées, l'esprit, le cœur et beaucoup de choses.
Samuel, parmi ces forestiers venus de toute la Suisse, tu as demandé à Diane Moratel, inspectrice des forêts, 2e arrondissement du canton de Vaud, ce qu'elle attendait de ces échanges. On l'écoute.
Mon attente principale, je dirais que c'est d'essayer de comprendre et d'essayer de trouver des pistes de comment allier notre mode de vie, notre façon à nous de voir la forêt, de l'entretenir, de l'exploiter, et puis une approche différente avec une autre vision de la forêt, peut-être plus émotionnelle ou plus... Ouais, qui passe moins par la tête et les calculs, et de voir comment est-ce qu'il y a des possibilités d'allier le tout dans notre monde d'Europe centrale.
Alors, le propos de Diane Moratel, tenu en début de journée, rejoint celui de Frédéric Schneider, qui est ingénieur forestier en charge du 1er arrondissement de canton de Fribourg. Je l'ai rencontré après le repas. Au menu, il y avait des sangliers qui avaient passé la matinée à rôtir au feu de bois. Et après cette matinée d'échange avec des représentants de tribus amazoniennes, je lui ai demandé ce que lui avait inspiré ces échanges.
Ça inspire quand même une certaine humilité, une différente approche de la forêt, de la voir sous un angle plus sympathique, peut-être plus coloré, plus détendu, un peu moins justement sur le... Je dirais sur l'aspect plutôt économique qu'on a souvent l'habitude. Comme je dis, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est cette approche quand même très, très directe, très vraie avec la forêt. Et ça, je pense que notre société pourrait vraiment s'inspirer de ça. Mais là, il y a encore du travail.
Alors, Jean Rosset, ces deux professionnels des forêts suisses évoquent une autre approche de la forêt, un petit peu comme vous l'avez fait tout à l'heure. Vous dites qu'on est beaucoup plus connecté qu'on ne le pense avec le monde vivant et qu'on entre dans une période où vous, forestiers, allez peut-être devenir des gardiens un peu différents, ouverts à d'autres dimensions. Quel genre de gardiens les forestiers suisses pourraient-ils devenir ?
Bon, ça, l'avenir nous le dira. Mais si on va aujourd'hui dans une librairie, on voit qu'il y a énormément de livres qui parlent de la forêt, basés très largement sur des connaissances scientifiques. Donc je crois que même notre science est arrivée maintenant à expliquer, à donner des explications qui entrent un peu dans la complexité du vivant. Et puis si on s'intéresse à ça, si on met toutes ces informations ensemble, on commence un peu à découvrir une nouvelle manière. C'est pas juste des molécules, c'est pas juste des réactions chimiques, mais ça va largement au-delà. Et je pense que les peuples premiers ont découvert ça depuis très longtemps. Et probablement que notre culture aussi avait cette connaissance. Mais voilà, depuis quelques siècles, on est parti sur un chemin très différent. Donc l'idée de cette rencontre, c'était de faire un échange, de faire un dialogue entre nous, forestiers ici et forestiers d'ailleurs. Maintenant, pour ce nouveau rôle, je pense qu'il pourrait émerger. Aujourd'hui, on est environ, en Suisse, j'ai calculé, environ 300 personnes qui s'occupent d'environ un tiers du territoire. C'est très peu de monde. Et en quelque sorte, la société, à travers les lois, à travers les finances publiques, etc., nous donne ce rôle de nous occuper de ce patrimoine. Et on le fait avec les outils du moment, qui sont largement des outils basés sur des modèles de production, etc. On doit fournir du bois, on doit fournir des prestations, on est payé pour ça, etc. Mais je dirais que l'aspect de gardien d'un patrimoine universel, de cette partie du vivant qui est restée préservée sur un tiers du territoire, celui-ci, il est en chacun d'entre nous, mais il n'est pas encore appréhendé officiellement, je dirais, par les institutions. Donc c'est peut-être ça c'est peut-être ce chemin qui va se faire ces prochaines décennies, on verra bien. C'est un peu une hypothèse pour le moment.
D'accord, alors il y a un parallèle qui en revanche était assez frappant dans les discours que tenaient à la fois les forestiers suisses et les représentants des peuples premiers, c'est l'aspect de la temporalité dans laquelle nous plonge la forêt, c'est un temps long. Comme le souligne d'ailleurs Jean-Louis Guay, inspecteur des forêts du 3e arrondissement du canton de Vaud.
Un arbre met au minimum plus de 100 ans pour se développer, suivant ce qu'on attend, il ne sera pas intéressant avant 300 ans. Donc si on a un désir par rapport à une forêt, il faut... prendre en compte ce que le passé, voir si c'est possible de modifier ça et puis d'accompagner cette modification. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre aussi des décisions unilatérales, parce que peut-être dans 40 ans, c'est plus ce qu'on veut, et nos successeurs n'auront pas, si on a fait des erreurs, n'auront pas une palette plus petite pour faire des choix futurs. Quoi.
Alors Jean Rosset, dans notre société où la temporalité se mesure aux quelques millièmes de seconde nécessaires à l'envoi d'un tweet ou d'un email, dans cette société où l'immédiat prévaut, même en politique, est-ce que c'est compliqué de faire comprendre la temporalité longue de la forêt qu'évoque Jean-Louis Gay, notamment en matière de politique publique ?
Oui et non. Je pense que d'une part, oui, parce que chacun a cette expérience de la forêt. Donc c'est quelque chose justement auquel tout le monde a été confronté. Donc je pense que ce n'est pas compliqué de comprendre qu'un arbre met du temps à pousser, etc. Donc je dirais ça passe assez facilement. Après, ce qu'on voit au niveau des finances publiques, très souvent, quand il y a des économies à faire, eh bien, très souvent, on va les faire sur la forêt. Parce que justement, comme ça peut attendre, comme on n'est pas à la semaine, au jour ou au mois, même à l'année près. Et c'est vrai, la forêt, finalement, elle n'a pas besoin de nous, elle pousse. Il y a un peu des deux.
Alors, un des corollaires de ce temps long, c'est la patience, évidemment, et l'humilité. Et c'est deux termes qui sont revenus assez souvent dans les échanges que j'ai eus avec vos collègues dans cette forêt à Moncor. Et Jean-Louis Gay en parle assez bien, on l'écoute.
C'est un temps très long que vous décrivez, la forêt, ça apprend la patience.
Oui, oui, absolument. L'observation, l'humilité, et oui, la patience, absolument. Et oui, il y a certaines choses qu'on fait après quelques décennies, on se dit « Ah, ça va dans le bon sens, mais on n'est pas sûr que ça réussisse. » Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on respecte les anciens en général. Et puis on essaye, c'est important de savoir ce que les gens voulaient faire. Quoi. Oui, la patience et le respect.
Cette journée de rencontre a aussi été l'occasion de partager des chants suisses et indiens. Une douzaine de yodelers ont montré comment on s'interpellait autrefois en Suisse, d'une montagne à l'autre.
Quelques notes de yodel qui nous font voyager dans notre beau pays. Samuel, tu as également rencontré Edouard Itowai, un artiste néo-calédonien, gardien de la mémoire du peuple Kanak. Il évoque lui aussi ce temps long et réagit à la manière dont on gère nos forêts en Suisse.
Je trouve qu'ici, vous êtes très engagé. Tandis que en Nouvelle-Calédonie, il faut encore se battre pour faire réveiller les consciences. Et c'est ça qui est dommage. Là-bas, on a utilisé du bois sans replanter derrière. Les sociétés ont travaillé pour couper un bois très noble, qui a toutes les qualités, c'est le houp. Mais quand on leur dit de replanter, ils disent que c'est met du temps à pousser. Mais ils n'ont pas mis de temps pour gagner des sous, pour ramasser les sous.
C'est un gros problème, la déforestation en Nouvelle-Calédonie.
C'est un gros problème. Elle a commencé pour l'élevage et l'agriculture. Après, ce qui a suivi, c'est sur les abords des rivières. ce qui fait fuir l'eau, ça veut dire qu'on appauvrit non seulement la terre, mais on va la sécher, les rivières. Les nappes phréatiques vont descendre, et les sources vont disparaître. Si on n'a pas conscience de ça, de donner les bonnes règles de conduite pour chacun, le risque sera imminent.
Alors Jean Rosset, contre la société forestière suisse a été fondée il y a 175 ans. Les forêts suisses étaient elles aussi menacées à cause de leur surexploitation, comme en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qui les avait mises en danger à l'époque ?
Alors à l'époque, c'était avant l'industrialisation, donc avant les gros transports de charbon, avant l'électricité. Et toute la force utilisée pour les premiers pas de l'industrialisation était faite avec largement de la chaleur issue du feu. Donc les machines à vapeur et des moulins, etc. Et ça, c'était une partie. L'autre partie, c'était tout ce qui était chauffage. Donc les grandes villes du pays étaient alimentées à travers avec l'eau, le bois qui était flotté sur l'eau. Et puis la troisième chose, c'était toute cette économie alpestre. Ces gens n'avaient pas d'autre chose pour survivre que leur bétail. Et puis ils mangeaient un peu tout ce qui poussait. Enfin, le peu qui poussait, qui restait après avoir été abattu pour être transporté dans les villes, était encore brouté par le bétail. Donc l'un dans l'autre, c'était une image assez catastrophique. Et il y a eu des grandes catastrophes il y a environ 200 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une prise de conscience politique et que c'est dans ce contexte-là qu'est née la première loi fédérale sur les forêts, qui est aujourd'hui encore très, très restrictive et qui protège très bien nos forêts.
Alors, en fin de journée, la conseillère nationale verte Adèle Torrance, qui était également venue pour participer au débat, a raconté le lien fort qu'elle entretient avec les représentants des peuples premiers. On l'écoute avec quelques bribes de l'interprète qui traduisait les propos pour les autres Brésiliens.
Nous venons tous de cultures et de régions très différentes et éloignées, mais l'amour et la relation à la forêt, c'est la même. Et chaque fois que je rencontre des personnes comme aujourd'hui, ça me donne beaucoup de force pour continuer à me battre.
Beaucoup moins forcé par continuer à lutter tard.
Et je vous remercie tous qui avez témoigné aujourd'hui de votre vécu et de votre amour pour la forêt, parce que chaque fois que je devrais me battre, je penserai à vous et ça va me donner de la force.
Et vous, Jean Rosset, est-ce que les rencontres de cette journée avec d'autres gardiens de forêt vous ont donné de la force ?
Oui, absolument. C'est très difficile à résumer en une seule phrase, mais il y avait vraiment des personnages extraordinaires. Vraiment, c'est des morceaux très importants de notre sagesse humaine qui sont peu connus, mais qui sont d'une force extraordinaire. Et je rejoins ce que dit Adèle Torrance. C'est vrai que c'est aussi ça qui me donne du courage. C'est de se rendre compte qu'il y a ailleurs aussi d'autres personnes qui s'engagent pour cette planète. Une des choses qui m'a beaucoup touché quand j'étais pendant ces jours en Amazonie, c'est que quand ils replantent des arbres, ils ne le font pas pour eux, ils le font pour toute la planète. Ils le font avec cette conscience de servir quelque chose de plus grand, de plus vaste, d'honorer cette nature. Et ça, c'est une attitude qui est absolument extraordinaire et qui donne beaucoup de courage aussi dans notre action ici.
Du courage, c'est ce qu'on retiendra de vos propos et on espère aussi que tous nos auditeurs se verront chargés de ce courage pour lutter à vos côtés. Merci beaucoup Jean Rosset d'être venu ce soir nous parler de cette journée, de cette rencontre entre forestiers suisses et peuples premiers. Une bonne soirée à vous.
Merci.
Je rappelle que vous êtes président de la Société suisse des forestiers. Et pour clore cette rubrique et ce rendez-vous, on écoute un chant de Ninawa Huniquin, un chaman de l'Est brésilien. Cette chanson parle à la forêt et de la forêt.
On m'a demandé souvent ce matin, mais est-ce que vous parlez avec la forêt ? Ben là, je vais lui parler.
Ah, Charles, Charles.
Ah,
ni 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 ni
Kuai kabira night, nay, 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 nay. Kuai kabira night, nay, 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 nay. Kuai kashiani, nay, 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 nay. Kuai kabiari, nay, 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 nay. Nay, 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 Ukanai ukua, nay, 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 nay,
nay, nay, nay,
nay,
La forêt, une discussion proposée par Samuel en nouvelle diffusion ce soir sur Radio Django.
Radio Django, la rose des vents.
Ce soir dans La Rose des Vents, nous parlons de Cuba grâce à Granma, les trombones de La Havane, un projet théâtral documentaire retenu pour la 5e édition de Programme commun, un festival suisse et international des arts de la scène du 27 mars au 7 avril. Le théâtre de Vidi, l'Arsenic et les Printemps de Sévelin proposaient un programme commun composé de créations suisses et d'ailleurs autour de la danse, des arts visuels, du théâtre et des performances. Daniel, tu y étais, c'est une invitation au voyage.
Certainement. Grâce au pass commun qui a permis aux spectateurs de circuler librement entre ces différents lieux et disciplines artistiques, et l'occasion de découvrir des chefs-d'œuvre comme Granma, les trombones de La Havane, dont nous parlerons ce soir. Un spectacle théâtral conçu et mis en scène par Stéphane Caegui du collectif berlinois Rimini Protocol.
Mais qui est ce Stéphane Caegui, Daniel ?
Stéphane Caegui est une des figures majeures du théâtre documentaire européen et participatif, membre fondateur du collectif berlinois Rimini Protocol, actif depuis 2000, l'équipe s'emploie à montrer la réalité sous toutes ses facettes en faisant sortir le théâtre de ses murs et grâce aux experts qui sont en fait appelés des experts du quotidien. Pour chacune de ses créations, le collectif plonge au cœur d'une réalité sociale et humaine et travaille avec les gens qui sont confrontés à cette réalité. Et c'est dans cet esprit qu'est né Granma, les trombones de La Havane, un voyage à Cuba de 1950 à nos jours. La pièce interroge l'héritage et l'avenir de la révolution cubaine à travers l'expérience de quatre jeunes Cubains et de leurs grands-parents. Un projet théâtral que je vous propose de découvrir avec Ricardo Sarmiento Ramirez, metteur en scène, auteur et réalisateur. Un monsieur passionnant et passionné. Résident de Documenta Sur depuis 2016, un espace de création, il collabore avec Stéphane Caegui, qu'il a rencontré dans le cadre du LLES à La Havane, le laboratoire scénique d'expérimentation sociale. Je commençais par lui demander ce qui l'avait motivé à participer à ce projet d'envergure. Les propos sont traduits en espagnol par Federico Schwind, collaborateur de la troupe en tournée en Suisse.
Buenas, yo he estado trabajando en este proyecto como colaborador en la dramaturgia y la dirección de escena. He desempeñado un rol bastante flexible a la hora de ayudar a poner en contexto situaciones de Cuba que se explican en la obra y también a la hora de mediar el diálogo con los performers en escena todo el tiempo.
Alors, j'ai travaillé sur cette pièce. Et en essayant de mettre en contexte ce qu'on dit sur la pièce, en aidant la mise en scène pour comprendre ce qu'il est dit là sur scène, pour comprendre ce que ça veut dire là au Cuba. Et j'assistais tout le temps à la mise en scène du projet.
Ma motivation initiale pour participer à ce projet était la conception du projet de contar algo que a été officialisé muchas veces, comme la histoire d'un pays. A través de historias de vida individuales. me llamaron la atención dos cosas especialmente. Uno, que era un proyecto, digamos, muy ambicioso en ese sentido de abarcar tantas cosas, pero dos, también el sentido de entender la historia como la vida de un individuo.
So, ma motivación principal ha sido contar la historia de Cuba desde un otro punto de vista, d'un point de vue qui touche plutôt l'individu, qui n'est pas vraiment l'histoire officielle de Cuba, comme on la raconte là-bas, mais une histoire qui naît directement de personnes.
Le titre de ce spectacle surprend, Gramna, les trombones de la Havane. Que signifie Gramna?
Gramna est un symbole en Cuba de lo que es la génération del Gramna, del yate Gramna, que tiene mucho que ver con la génération que hizo y echó a andar la révolution cubana.
Et le Gramma, c'est très important à Cuba parce que le nom d'un bateau qui était très lié à la Révolution et qui est un symbole très, très important pour tous les Cubains.
Mais le sens, en fait, de Gramma, c'est grand-mère. Et on sait également que Fidel Castro avait un journal qui s'appelait, en fait, Gramma. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet?
Et, bueno, precisamente, esa relación es algo que media la pieza a la hora de hablar de la historia personal de un país, que son la historia de esos individuos. Grandma, en inglés, grandma tiene que ver, sí, con la figura de un abuelo o de una abuela en la vida y de cada uno de los performers que vas a ver en escena.
Oui, du coup, grandma, c'est une chose qui fait la médiation de la pièce. C'est très important, ce concept de grand-père, grand-mère de la pièce.
Y la influencia de esto, la relación de estos abuelos con los performers en escena.
Donc dans la pièce c'est très important la relation entre les performeurs qui sont sur scène et leur relation avec les grands-pères et grands-mères.
Que son lo que en Cuba se le llama la generación histórica, la generación heroica de la epopeya.
Parce que ces grands-pères et grands-mères ont été en fait la génération épique, la génération héroïque et héroïque qui a été la génération de la révolution en fait. C'est la génération qui a fait la révolution. Donc la pièce, c'est très important la relation avec cette génération-là entre les performeurs et les grands-pères.
En parlant de génération, de rapport intergénérationnel, il serait aussi intéressant de comprendre dans cette pièce quelle place occupe la musique et pourquoi les trombones.
Algunas cosas como por qué los trombones, que tienen que ver más con un instinto y una relación emotiva con el instrumento y con el sonido, pero...
Donc, du coup, le trombone était un instant de trouver une relation émotive avec les instruments. En fait, c'est ça qui est important de la pièce, c'est la relation entre les performeurs et les trombones eux-mêmes.
Sí, y... Precisamente también por el sonido de los trombones, la forma de los trombones, una de las performers lo definía en un ensayo en La Habana como un instrumento que para ella era muy queer.
Donc, la forma de trombón, el son de trombón, un de performer a La Habana, il l'a défini como un instrumento que es queer, que puede ser queer.
Y entonces, su nombre es Milagro. Entonces, la música ocupa en la pieza un lugar muy importante porque de los cuatro performers en escena, solo una es músico profesional.
En fait, ce qu'il a dit, c'est là, s'appelle Milagro. La musique occupe une place très importante de la pièce parce que d'abord, les performers, et quand ils ont commencé la répétition, ils ne savaient pas. Et trois de quatre performeurs ne savaient pas jouer le trombone. Donc, du coup, ils ont appris ça pendant le processus.
Et à la part de la création de la obra, ils ont appris à tocar trombone. Algo que pensaron que nunca iban a hacer en su vida.
Donc, du coup, ils ont appris à jouer le trombone. Et c'est une chose qu'ils n'ont jamais imaginé qu'ils pouvaient faire ça dans leur vie. Donc, c'était une surprise.
Y precisamente esta motivación de desafío, de hacer algo que nunca pensaste, de hacer algo que parecía una utopía, fue una de las cosas que más me enamoró, porque la Revolución Cubana para muchas personas fue algo así, algo que nunca se pensó posible, algo que se pensó siempre utópico, hasta que sucedió y estalló.
Donc, il y a un parallèle entre cette idée d'apprendre et de faire une chose qui à la base, les personnes ne croient pas qui est possible. Et avec la révolution, donc le trombone, d'apprendre le trombone, c'est une forme d'utopie de faire une chose impossible, aussi comme la révolution cubaine.
Mais dans la révolution cubaine, le trombone en soi, en fait, est un instrument fort aussi. Ça incarne ce pouvoir, en fait, dont rêvait Fidel Castro.
Yo no lo diría de esa manera. Diría que tiene más que ver con una sonoridad, que sí es una sonoridad fuerte, pero no solo verlo como algo que encarna una fuerza histórica, sino que el trombón muchas veces va a ser algo que da lugar, da vida a una historia y a una melodía personal.
Je ne crois pas que c'est un instrument qui est seulement lié avec la révolution cubaine. En fait, pour moi, ce qui est intéressant, c'est ce pouvoir du son de l'instrument qui incarne cette puissance de vie, cette force.
Le trombone a aussi quelque chose de rassembleur, non seulement dans la pièce, mais peut-être aussi dans les rapports que les gens peuvent entretenir entre eux à Cuba. On parle beaucoup de la vie sociale qui est très forte.
Alguna vez usted ha visitado Cuba?
Est-ce que vous avez été à Cuba?
Pas encore, mais j'irai avec grand plaisir.
Sí, bueno, la revolución fue un gesto de masas. Fue un gesto de miles de personas uniéndose para lograr algo. Y sí, quizás esa fuerza y esa relación que ves con el llamado a formar algo tiene también que ver con la fuerza del trombón y me alegra mucho que lo encuentre ahí. Uh-huh.
Donc, je suis content que tu puisses voir ça parce que oui, c'est vrai que le trombone a cette capacité de rassembler les masses, d'appeler les masses à prendre l'action. Et la révolution a été un geste fait par les masses. Donc, je suis content que vous puissiez voir ça.
Que pensez-vous de cette démarche de Stéphane Kaegi de donner la parole à des citoyens pour raconter l'histoire de Cuba au travers de leur histoire personnelle, mais aussi celle de leurs grands-parents.
Creo que ha sido un proceso de alguna manera nuevo e inesperado para él mismo y también quizás un proceso un poco más arriesgado a la hora de llevarlo a cabo porque usualmente Stefan trabaja con expertos de vida y los expertos de vida normalmente o a nivel del estado de cómo está establecido, suelen ser personas que han vivido un gran tiempo y son expertos en algo en lo que la vida les ha puesto. En este caso, estamos trabajando con cuatro personas que son muy jóvenes y que es complejo llamarles expertos de vida.
Entonces, de marcha, Stéphane, je crois que il a fait une démarche un peu plus risquée que d'habitude. Parce que normalement, généralement, ils travaillent avec des experts de vie. Ça veut dire des gens qui parlent de leur propre vie. Mais dans ce cas-là, c'est un peu différent parce que les performeurs, ils sont très jeunes et ils n'ont pas vécu la révolution eux-mêmes. Donc, dans ce cas, c'est plutôt une autre chose que ce que Stéphane a fait.
Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il y a une confrontation entre deux générations. Il y a ceux qui racontent l'histoire, si j'ai bien compris, de leurs grands-parents, et il y a les autres qui finalement ne portent plus l'idéal de la révolution.
Bueno, yo pienso que no es así y que la obra tampoco va solo de eso. Sí, evidentemente entre abuelos y nietos hay un cambio muy grande, evidentemente, pero el concepto de lo que era la revolución se ve en ellos a partir de lo que ellos son. Qui ont devenu d'un processus.
Je ne crois pas que c'est exactement comme ça, en fait, parce que ce que les performeurs sont aujourd'hui, en fait, ça a été un résultat de la révolution. Donc, on ne peut pas tout simplement dire qu'ils ne portent plus les idéaux de la révolution, parce qu'en fait, ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils peuvent faire dans leur vie, et ça incarne d'une manière les idéaux de la révolution.
Et d'alguna manière, la force también de travailler avec estos, entre comillas, expertos de vida, porque son muy jóvenes, de acuerdo a la denominación usual de expertos de vida, radica esa fuerza en su proyección hacia el futuro, en que son personas que no van a hablar quizás tanto de lo que ellos mismos han vivido, sino de cómo quieren que sea su vida.
Je pense que un peu la force de cette pièce avec ces experts de vie qui sont plutôt jeunes et c'est pas seulement parler de leur propre vie, de leur passé, mais parler de devenir, de futur qui sont au-delà de eux. Et c'est aussi ce qui est pour moi une force très grande de ces pièces. C'est pas vraiment seulement sur le passé, mais sur l'avenir.
Et lo más interesante en ese aspecto es que ellos, para hablar del futuro y de esa proyección, lo hacen a través de las vidas de sus abuelos.
Le plus intéressant pour moi, c'est que pour parler du futur, en fait, ils vont prendre la vie de leurs grands-parents. C'est un croisement dans toutes ces générations qu'ils parlent de leur futur. Donc ils parlent de leur futur en prenant les passés de ses grands-pères et grands-mères.
Mais est-ce qu'on peut parler d'une fracture entre les jeunes générations et les anciennes générations au travers de ce projet théâtral?
Sí, por supuesto. Pero una fractura como sucede en una fractura a todos los niveles de la vida también. Una fractura generacional, una fractura porque el mundo ha cambiado, porque los ritmos han cambiado, y no enfocaría nunca esa fractura como una oposición, más bien como una, digamos, como una forma de los nietos armar la vida de un modo diferente a como los abuelos armaron su vida, porque lo están haciendo sobre bases distintas.
Oui, certainement, il y a une fracture, mais je ne crois pas que cette fracture soit une opposition. C'est juste que le monde a changé, les choses ont changé. Et bien sûr, c'est vraiment différent pour les performeurs sur la scène aujourd'hui, leur vie, et par rapport à la vie de leurs grands-parents. Mais je ne parlerai pas d'une opposition.
Que reste-t-il aujourd'hui à Cuba de l'idéal révolutionnaire porté par Fidel Castro?
Yo creo que en Cuba queda mucho de eso en el calor de la gente, en la forma en que la gente se trata y, bueno, sí, evidentemente en todo el sistema, porque el sistema que existe en Cuba viene de ahí, pero a nivel individual, de persona, como se trabaja en esta obra, creo que tiene mucho que ver con un diálogo profundo en una sociedad que no está quizás tan fragmentada por otras cuestiones como si está fragmentada una sociedad capitalista.
Je crois que ce qu'il reste, c'est d'abord la chaleur humaine entre les gens. Et je crois que la société à Cuba, c'est pas si fragmentée comme dans une société capitaliste. Et aussi, bien sûr, elle reste tout le système.
Quelles sont aujourd'hui les réalités de Cuba? On entend beaucoup parler de pénurie de logements. Et est-ce que vous pourriez simplement nous expliquer ce que sont les familiales compuestas?
Pero digamos que esto de la familia compuesta tiene que ver con una necesidad de vivienda. Mm-hmm. Y en Cuba es muy común que vivan tres generaciones bajo un mismo techo.
Donc cette idée de la familia compuesta, de la famille composée, et il est né à partir d'un besoin, un besoin de logement, comme vous dites, un besoin de... Il n'y a pas suffisamment de logements, donc du coup, les gens, les différents membres de la famille, doivent habiter ensemble.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on véhicule beaucoup de clichés sur la société cubaine?
Bueno, creo que eso siempre está en función de los intereses de los medios. Y en ese caso, creo que uno pudiera determinar que está en dependencia de cómo se consume esa información.
Il y a un rapport avec les intérêts des médias et aussi un rapport avec la consommation de ce que on veut voir de Cuba, ¿no? C'est ce que como lo que se consume de
como lo que la gente quiere consumir de Cuba.
Especialmente ce que les gens veulent also consommer de Cuba, c'est ça en fait que les médias montrent, c'est que c'est un rapport avec la consommation.
Y creo que cuestionar eso significa también cuestionarse a sí mismo como persona por qué tiene ese interés.
Je pense que de cuestionner ça, c'est d'abord de se cuestionner à
lui-même.
De que si une personne se questionne à soi-même et de se questionner pourquoi est-ce que je m'intéresse à Cuba.
Pour conclure, Ricardo, on dit qu'à Cuba, on ne jette rien, tout ressurgit sous de nouvelles formes, on recycle sur un modèle de sharing economy comme les modèles d'appartements partagés dont on parlait tout à l'heure, les transports partagés. Le modèle cubain, serait-il avant-gardiste? En d'autres mots, en quoi ce modèle pourrait inspirer aujourd'hui les sociétés capitalistes?
Algo que a mí siempre me preocupa cuando personas que viven en países capitalistas me preguntan sobre los modelos económicos en Cuba es que intentan comprenderlo a partir de las estructuras económicas que tienen en sus países.
Donc, du coup, une chose qui me concerne un peu, c'est que quand les gens essayent de comprendre comment fonctionnent les choses à Cuba, ils font toujours la comparaison en prenant d'abord les propres idées, les propres concepts de comment ça fonctionne l'économie dans, au pays capitaliste.
Y creo que lo que puede aportarle a una sociedad capitalista el modelo, digamos, en general, que hay en Cuba, tiene que ver con quitarse ellos mismos esa mirada.
Yo pienso que lo que Cuba podría dar a la sociedad capitalista, en fait, es d'abord de pensar que hay otras realidades posibles y de enlever esta visión única sobre la economía, sobre el sistema.
Merci à Ricardo et Federico. Souvent, les jeunes ne sont pas invités à donner leur avis sur les marches de l'histoire. Or, dans Granma, les trombones de la Havane, les jeunes sont souvent invités sur scène et les projets de Stéphane Kegui leur donnent le pouvoir de relire leur histoire et de la réécrire. La parole se libère apparemment, Daniel.
En effet, Fabien, la force de ce théâtre documentaire et participatif réside dans sa capacité à questionner l'histoire au prisme des réalités du quotidien des jeunes générations. Ce spectacle donne à voir la perception de jeunes générations de leur histoire et des répercussions de cette histoire sur leur réel.
Après le théâtre de Vidi à Lausanne et le théâtre Caserne à Bâle ce printemps, d'autres tournées sont prévues à Zurich, à Lugano en automne 2019. Merci beaucoup Daniel pour ce sujet que vous nous proposiez ce soir. Un sujet à retrouver et à écouter sur notre site www.django.fm.
No importa que me critiques si tú no sabes. Bailo de esa manera, es lo que cabe. El son yo lo bailo así, no se lo imito a nadie. Me río de lo que digas, porque no sabes. Me río de lo que digas, porque no sabes que yo soy, que yo soy, que yo soy candela. Ahí viene la candela, pa' acá. Agua, mamá, ahí viene la candela, pa' acá.
Radio Django, culture.
On termine ce grand direct avec un sujet d'il y a un an, le 4 avril 2018. Nous vous proposons de retrouver cet entretien ce soir et logiquement, nous parlons théâtre avec notre invité Julien Mage. Bonsoir Julien Mage.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Nous allons parler évidemment de votre parcours en tant qu'auteur, metteur en scène et comédien, mais on va aussi parler de votre actualité, hein, puisque c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Automne. Elle sera jouée du 12 au 15 avril prochain à la Grange de Dorigny. Vous êtes issu de la première volée, Julien Mage, vous êtes issu de la première volée de la Manufacture à Lausanne, où vous avez suivi des études de comédien, vous avez joué d'ailleurs dans plusieurs pièces de théâtre, et vous êtes auteur roman désormais confirmé, avec à votre actif l'écriture d'environ 30 pièces, en comptant les longues et les brèves, dont 14 que vous avez mises en scène. Julien Mage, l'art du jeu et de l'écriture vous a forgé au théâtre, mais est-ce qu'on peut dire que vous êtes d'abord auteur plutôt que metteur en scène ou comédien ?
Actuellement, je vis une période charnière. J'ai été avant tout homme de théâtre en rentrant à la Manufacture, parce que quand on fait une école de théâtre, on ne sait jamais quelle sera notre spécialité future. Donc au départ, j'étais avant tout homme de théâtre et petit à petit, la carrière avançant, on se distingue davantage comme comédien, metteur en scène ou même dans la technique. Et moi, je suis devenu, il est vrai, auteur assez rapidement. J'ai écrit des pièces avant la Manufacture, j'en ai écrit pendant et après. J'ai créé un collectif au sortir de la Manufacture qui s'est réuni autour de mon écriture. Et maintenant, on peut dire, après une dizaine d'années d'écriture et de mise en scène de mes pièces, je commence par abréger mon apprentissage de l'écriture. Alors, théâtrale, pardon.
Oui. Alors, Julien Mage, plus de 30 pièces que vous avez signées, c'est quand même un nombre considérable pour votre jeune âge. On ne dira pas combien vous avez.
18 ans.
Voilà, 18 ans. Hein,
mouillé derrière les oreilles.
Mais où est-ce que vous puisez votre inspiration ?
Ouh là là, la question de l'inspiration, elle est très complexe. Je pense que c'est à la fois, comme on dit toujours, du travail, le plongeon dans un sujet. Il y a quelques années, en 2013, je me suis intéressé par exemple aux tueurs de masse, parce que nous avons eu des événements sinistres de cet acabit. Les tueurs de masse qui faisaient rage aussi aux États-Unis, etc., et qui se sont mélangés maintenant au terrorisme. Donc on plonge dans un sujet, on le médite et on travaille sur l'œuvre après, en choisissant la forme de la pièce, soit dialoguée, souvent dialoguée, monologuée, une pièce classique avec narration ou sans narration. Pour le coup, c'était une pièce qui était plutôt une pièce post-dramatique, sans narration, mais avec des espèces d'éclats de jeunes qui parlent de leur envie de vengeance, de leur envie de violence, etc. Et c'était au final une étude sur la violence. Donc j'ai envie de dire, c'est presque comme un chercheur en histoire, un étudiant en lettres ou autre. On étudie un sujet et après on va écrire une histoire et les choses vont descendre comme ça. Les choses ne descendent pas toutes seules comme l'image d'Épinal qu'on a de l'écrivain dans sa mansarde. C'est du travail, c'est une investigation et c'est l'écriture à proprement parler.
Parce
un
que vous...
plan, oui. Voilà.
Mais oui. J'ai pu voir que vos thèmes de prédilection, à l'origine, c'est plutôt les relations de famille, de couple, et puis aussi, souvent aussi la mort, de ce que j'ai pu voir, hein,
oui,
la
je
mémoire.
Me suis, bien sûr, je me suis beaucoup intéressé aux relations de petites cellules d'individus,
voilà.
La famille, le couple, un groupe d'amis en marge dans Les Perdus qu'on a monté au Théâtre de Vidy, c'était en 2008, c'était une de mes premières pièces au Théâtre de Vidy. La première au Théâtre de Vidy, j'en ai fait plusieurs après avec René Gonzalez, feu René Gonzalez qui m'a accompagné. Voilà.
Mais, et puis finalement, comment vous vous définiriez-vous ? Parce que j'ai pu lire à votre sujet qu'on vous qualifiait d'une part d'auteur moraliste, de révolutionnaire avec comme seule arme la plume. Vous vous dites vous-même auteur qui ne revêt pas l'uniforme de la forme. On vous qualifie d'auteur remarquable, impressionniste et poétique. Vous en pensez quoi ? Vous vous définissez comment ?
C'est des mots de journaliste et d'auteur journaliste, on va dire. maintenant, avec une certaine, un début de maturité, on va dire, avec mon grand âge, plus j'avance, plus je me perds dans l'évocation de moi-même. Je crois qu'un un écrivain, un auteur, un créateur, de manière générale, plonge dans des matières, essaye de suivre un sillon qui creuse. Et c'est difficile à s'auto-définir, c'est les autres. C'est d'ailleurs, vous citez des journalistes.
Oui. Très bien.
Venons-en peut-être maintenant à votre pièce. Hein. Elle s'intitule Automne. Elle a été jouée à Genève, Sion, Neuchâtel. Elle sera même à l'affiche maintenant de la Grange de Dorigny. Hein. Ce sera du 12 au 15 avril. Cette pièce, c'est le dialogue d'un couple de personnes âgées qui se questionnent et qui questionnent son existence. Une incursion très intime dans la vie de ces vieux, de ce vieux couple, pardon, à la fois drôle et émouvante. Comment vous est venue l'idée de cette pièce, Automne ?
Alors j'étais en avance au théâtre à Genève et un couple de 80 ans était assis à côté de moi. Nous étions les seuls dans le bar et je voyais, j'ai vu le monsieur du couple lire à sa femme le programme de la soirée, enfin le résumé de la biographie de l'auteur. C'était une pièce de Horvat et j'ai trouvé cette image tellement tendre et l'idée qu'il soit là au théâtre et qu'ils aient passé peut-être 50 ans ensemble et que encore le monsieur avait cette tendresse de lire à sa femme le programme. Je me suis dit, tiens, on parle pas de ces gens-là, on fait rarement des pièces là-dessus. Je sais pas, là pour le coup, oui, ça a été une espèce d'inspiration. J'ai commencé à écrire un dialogue sur une feuille à côté, sans penser en faire une pièce un jour. Puis petit à petit, la trame est née, la péripétie, la pièce, les personnages. Je me suis inspiré à la fois de mes grands-parents, mais j'écoutais les personnes âgées parler dans le train ou dans des bars, au restaurant plutôt. Et voilà, c'est une pièce qui est née comme ça, quoi.
Ouais. Et dans votre pièce, vous abordez plusieurs thèmes, hein, la vie, la mort, la transmission, mais aussi l'amour, la complexité du couple et surtout les non-dits inévitables dans un vieux couple. Hein. C'est une pièce qui pourrait être tragique, mais qui ne l'est pas au final. Et puis elle se veut drôle, émouvante, avec des touches d'humour qui font qu'à la fin de la pièce, ben, il paraît que les spectateurs veulent en savoir plus et connaître la suite. Quelle a été votre ligne directrice pour trouver une telle justesse et un tel équilibre dans le dévoilement de ces sentiments humains à la fois graves et légers et fragiles, finalement?
C'est en essayant d'imiter notre nature, la nature. Je crois que une vie, quelle qu'elle soit, un couple, quel qu'il soit, traverse des moments de peine. Et dans ces moments de peine, il y a toujours des moments caustiques. Je me souviens de la perte d'être cher après laquelle on rigolait, on avait fait le pari de rire de ça. Et je pense qu'il y a toujours un peu de comédie dans les drames, dans les tragédies les pires, et du drame évidemment dans les tragédies, non, du drame dans les comédies. Voilà, ça ira mieux dans ce sens.
Dans le bon sens.
Et puis, vous êtes plutôt un auteur qu'on peut dire engagé dans son art. C'est quoi le message que vous aimeriez faire passer par cette pièce? Ou en tout cas, qu'est-ce que vous aimeriez vous aimeriez que le spectateur reparte de cette pièce?
Bonne question. Plus j'avance, moins je crois à l'écriture en tout cas artistique, à message. Je pense que le théâtre peut être un miroir, peut être un questionnement, mais avant tout, une manière de divertissement. Pour moi, il n'y a pas de besoin de rendre le spectateur autrement que touché sur le moment. C'est déjà beaucoup. Peut-être un regard sur soi, un regard sur l'amour qu'on peut porter aux gens de manière fidèle à long terme. Les gens de notre famille, c'est un clin d'œil à la famille, c'est un clin d'œil à l'amour. J'ai trouvé l'œuvre de Michaela Nekke, Amour avec Trintignant, et Je ne me souviens plus maintenant du nom de la comédienne, ça va me revenir. J'ai trouvé ce film poignant, mais très très dur. Et j'avais envie de quelque chose là, en tout cas c'est sorti comme ça, de tendre.
Oui.
Donc peut-être en ressortir avec la tendresse.
Oui.
Malgré le fait qu'ils sont confrontés à des choses telles qu'évidemment la mort à ces âges-là.
Oui. Et même, elle est même comique hein, sur certains aspects. Donc, cette pièce est quand même moins noire que les précédentes. Est-ce que c'est un tournant dans votre parcours d'auteur? Est-ce que Julien Maje serait-il moins révolté et voir un futur auteur comique? On n'en est pas là.
Je ne sais pas. Je sais pas Doxa Rouge, que j'ai écrite pour le metteur en scène Vincent Bonniot, s'appelait Doxa Rouge. Comédie noire. Janine Rhapsody est une pièce que j'ai écrite en pensant à la comédie. Donc pour moi, je pense que le drame n'est pas incompatible avec la comédie. Je pense que c'est un peu mêlé.
Ça se rejoint.
J'ai envie d'écrire les deux à la fois.
Oui. Et puis encore peut-être, Julien, quelques mots sur la collaboration avec Jean-Yves Ruff, qui a fait la mise en scène, hein, pour le moins originale. Comme le verront nos auditeurs quand ils iront voir votre pièce. Et puis le choix des comédiens, hein, Jacques Michel et Yvette Terrola, dont je dois quand même relever la justesse du jeu, qui sont excellents.
Oui.
Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ces choix. Ou...
Oui, c'est nos choix à Jean-Yves Ruff et moi, mais évidemment, lui, en tant que metteur en scène, c'est lui qui avait le dernier mot. Et on a trouvé l'idée plutôt excellente de proposer à Yvette de rejouer. Yvette qui joue quasiment plus, enfin qui fait surtout des tours de chant maintenant, et elle était enchantée de rejouer dans une pièce, ça faisait un moment qu'on avait envie de travailler ensemble en tout cas, et Jacques Michel, ça a été aussi une idée intéressante, enfin qui nous a paru juste d'emblée. J'ai travaillé avec lui à l'époque dans une autre pièce qui s'appelle Un homme seul au théâtre de Vidi, et j'ai fortement recommandé à Jean-Yves. Donc s'est fait naturellement aussi et avec la tendresse qu'on a les uns pour les autres.
Oui. Ok. Et puis enfin, j'ai envie de reprendre cette citation du journal Le Temps qui dit, en parlant de votre pièce, qu'il y a des vieux qu'on veut fuir parce qu'ils ressassent à l'infini, et il y a des vieux qu'on suit parce qu'ils stimulent l'esprit, et le couple d'automne appartient à la seconde catégorie. Une pièce à ne pas manquer, donc.
C'est une belle conclusion.
J'espère.
Un parcours, Julien Maje, professionnel, un parcours professionnel déjà bien rempli et diversifié, avec un succès rapide. Comment est-ce que vous voyez l'avenir pour vous?
Je le vois pas, comme tous les artistes.
D'accord, mais encore.
C'est des métiers très précaires. Une saison, on appelle ça des saisons, comme les années scolaires, peut être très remplie, incroyable, et puis l'année suivante, il peut y avoir des, elles peuvent être. La saison peut être plus difficile, des projets peuvent tomber, ne pas avoir d'argent, etc. Donc pour l'instant, je le vois avec le présent, avec ce que je forge sur le moment présent. Mais j'ai répondu une fois à une question d'un journaliste, c'était à la radio aussi, en disant que j'ai fait du théâtre par le passé, j'en fais maintenant et j'en ferai probablement dans le futur. C'est ça qui est important, quoi. J'ai envie de dire.
La question, juste pour finir, ça serait plutôt, alors, est-ce que vous avez déjà d'autres projets?
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Des pièces de théâtre.
Des commandes personnelles, des commandes inspirées de classiques, comme j'ai déjà pu faire, notamment Sophocle, des projets autour de Tchekhov, etc. Oui, je ne manque pas de projets.
Donc il y a quand même du futur.
Ouais, tout à fait, oui.
Un futur plutôt large. Et en tout cas, on vous le souhaite des meilleurs. Oui. Merci beaucoup à vous, Julien Maje, d'être parti ce soir
pour
Radio Django. On rappelle hein, votre pièce qui s'appelle Automne et qui est jouée la semaine prochaine. Hein, c'est du 12 au 15 avril à la Grange de Dorigny. Donc, selon vous, Isaura, on vous encourage à en faire de même, à aller voir cette pièce puisqu'elle est chez nous. Merci beaucoup, Julien Maje.
Merci.
Une bonne soirée.
Bonne soirée.
Un sujet préparé par Isaura à retrouver et à réécouter sur notre site www.django.fm.
Le Grand Direct s'est terminé pour ce mardi. Nous avons parlé de la forêt avec Samuel, nous avons parlé de théâtre cubain avec Daniel et de mise en scène à l'instant avec Julien Mage, notre invité, et Isaura. Tous les sujets sont à retrouver sur notre site www.django.fm, notre site où vous pouvez retrouver les quelques 750 sujets que nous avons traités pour vous. La semaine prochaine, eh bien, nous parlerons de la situation des sans-abri à Lausanne, nous parlerons d'une bande dessinée après l'arrivée de migrants, et enfin nous parlerons d'esclavagisme avec Olivier Pavillon. Tous ces sujets, c'est le menu du Grand Direct de la semaine prochaine, à découvrir mardi à partir de 18h. Très belle soirée à vous à l'écoute de nos programmes, il est 19h.
Radio Django à écouter sur radio.django.fr.